à nouveau, si vous voulez, le Japon affirme fièrement, oui, nous avons des forces armées, mais plus seulement des forces d'autodéfense, le rôle limité. Le changement, il y a longtemps qu'il est en route, en fait. En 1990, l'armée japonaise ne pouvait pas mettre le pied en dehors du territoire national. Aujourd'hui, les forces japonaises sont capables de mener des missions à l'étranger aussi bien dans le cadre des missions de l'ONU que dans le cadre de coopération bilatérale avec les États-Unis ou dans le cadre de coalitions destinées à combattre le terrorisme, et cela dans le monde entier. Aujourd'hui, par exemple, à la coalition antiterroriste en Afghanistan. Il y a évidemment une très grosse limite qui est que toutes ces missions sont strictement non combattantes, mais quand même on mesure énormément de chemin a été parcouru.
Dans quelle mesure, selon vous, le Japon développe sa défense parce qu'il se sent menacé par la Corée ?
Alors en fait, il s'agit d'une évolution qui a été voulue depuis très longtemps par le Parti libéral-démocrate qui gouverne le Japon de manière quasiment continue. La menace nord-coréenne a été en fait extrêmement utile au Parti libéral-démocrate pour justifier les évolutions législatives successives qui ont permis de passer de la situation telle qu'elle était en 90 à celle que je viens de vous décrire. On ne peut pas bien sûr négliger le fait qu'il y a à peine 200 km de Tokyo, une dictature dotée d'une certaine capacité balistique et probablement d'au moins disons, un gros pétard nucléaire. Mais compte tenu du fait que les Nord-Coréens ne sont absolument pas suicidaires, en réalité, le véritable ennemi dans la tête de l'establishment politique japonais étant plutôt la Chine.
Alors la Chine est un ennemi majeur aussi pour les États-Unis. Un accord militaire et politique a eu lieu il y a presque un an maintenant entre le Japon et les États-Unis. Dans quelle mesure justement les États-Unis ne sont-ils pas derrière cette évolution ?
Bien sûr, dès qu'on parle de défense japonaise, les États-Unis sont là. Puisque depuis 1945, et plus précisément depuis la fin de l'occupation américaine et la signature du traité de sécurité entre les deux pays, les forces armées japonaises et les forces armées américaines, qui ont des bases sur l'archipel, travaillent très étroitement ensemble. Paradoxalement, on pourrait dire que les Japonais cherchent à la fois à coller aux États-Unis, vous avez fait allusion effectivement aux nouvelles dispositions qui ont été prises en 2005 et 2006 et qui aboutissent à intégrer encore davantage les forces japonaises dans le déploiement américain à l'échelle mondiale. Mais en même temps, les Japonais cherchent à s'autonomiser autant que possible, au moins en ce qui concerne le théâtre asiatique. Par exemple, dans le cas de la Corée du Nord, les Japonais, au plan politique, se sont très nettement démarqués des États-Unis. Ils ont toujours été très défavorables aux gesticulations dures. L'ancien Premier ministre Koizumi Junichiro s'est rendu deux fois à Pyongyang, serré la main à Kim Il-sung, alors même que Bush avait classé Kim Il-sung comme le grand diable sur l'axe du mal. Donc les deux dimensions sont présentes.
Comment est-ce que vous expliquez que le nouveau Premier ministre, qui est arrivé au pouvoir seulement en septembre dernier, doit faire face déjà à une chute de sa popularité ? Est-ce que c'est lié notamment à cette politique de défense ?
Abe avait gagné de la popularité sur son positionnement extérieur, mais sur un positionnement extérieur, détente avec la Chine, détente avec la Corée du Sud, quelque peu en contradiction avec sa sensibilité néo-nationaliste et les objectifs de renforcer la puissance militaire du Japon.